Bon, bah, re-re-re-bonjour. Donc, c'est le dernier moment de ces deux très riches journées ensemble. Donc, c'est une unité thématique intitulée Panorama. L'ambition est grande. On va donc écouter Élodie Hervier en premier lieu. Alors je fais tout de suite les présentations et puis après je présenterai les deux prochains intervenants plus tard. Donc Élodie, tu es, enfin je te vous vois, doctorante en art du spectacle au laboratoire Passage 2021 de Lyon. Vous travaillez sur les dispositifs radiophoniques dans le cadre de vos recherches et vous articulez ça aussi à une pratique et à un enseignement puisque vous prenez en charge des ateliers pour se former à l'écriture radiophonique. Voilà, et c'est sur ce sujet que vous allez intervenir, sur des dispositifs d'avant la crise sanitaire et sur des dispositifs postérieurs. On est très curieux de vous entendre.
Oui, merci Armelle, et vous pouvez me tutoyer, toutes et tous. Oui, le souhait était donc, puisque la radio a été un dispositif de secours, de s'intéresser aux créations qui, juste avant le confinement, ont pris ce dispositif pour le montrer dans les mises en scène. Mais avant ça, merci, bien sûr, aux organisateurs et à tous, hein, de cette opportunité, d'avoir partagé vos réflexions et surtout toutes ces expériences si variées. Ça a été deux journées intenses. Ma contribution dans cette étape de panorama, elle est donc de poser des points de repère avec des créations que je vous propose. Donc, j'en ai choisi trois, plus ou moins arbitrairement pour ressortir des notions qui m'intéressent, mais aussi pour l'originalité des dispositifs qui voilà, viennent s'ajouter à tous les dispositifs très originaux qu'on a pu voir ces 2 jours. Alors, les créateurs se sont servis de la radio dans le champ des créations de théâtre qui convoquent l'intermédialité. La radio, elle est quand même un petit peu particulière puisqu'elle est le plus, enfin, elle est rarement repérée par le public comme un moteur de créativité ou un matériel artistique. Les auditeurs de radio ont l'habitude de l'actualité, du rédactionnel, et même ceux qui ont plaisir à écouter du documentaire ne se rendent pas toujours compte de la portée artistique de la radio. On l'a d'ailleurs dit, hein, ça a été souligné, les adaptations du théâtre à la radio, les radiodramas, voilà, sont souvent peu écoutés et dans des matériaux créatifs. Voilà, quoi, qui sont peu remarqués, en tout cas par les observations théâtrales. C'est en train de changer, j'y viens. On admet plus facilement l'image quand on est sur scène ou la vidéo comme porteuse d'un sens. Cette fracture entre l'image et le son, hein, y a un changement dans les années 2000-2010. Notamment opéré grâce aux recherches de Marie-Madeleine Mervoroux, au groupe de recherche ECHO et Jean-Marc Larue. Jean-Marc Larue qui note que le micro sur scène est un petit peu expulsé, en tout cas rendu invisible. Et cela s'explique par l'histoire du son au théâtre, par l'histoire du XXe siècle et l'argument du théâtre qui serait un lieu de présence. Un lieu d'authenticité où donc la technique et le micro n'auraient pas sa place. Le vrai théâtre, le vrai interprète de théâtre n'utilise pas de micro. Bien sûr, tout ça est en train de changer, notamment depuis 2000-2010. À ce jour, j'ai recensé une trentaine de créations et celles dont on a parlé aujourd'hui, je ne les connaissais pas. Voilà, donc ça. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de matériaux à recenser et je vous en propose donc quelques-uns. Notamment, pour commencer, le spectacle de Lola Neymark. Je vais toujours essayer de donner aussi le nom du créateur sonore dans les spectacles. Donc, la metteuse en scène Lola Neymark qui travaille avec la créatrice sonore Mélanie Pécla. Je vous copie-colle dans la discussion éventuellement les trois teasers de... Bon, je le ferai lors de la discussion plutôt. Voilà. Donc, le spectacle s'appelle « Les rues n'appartiennent en principe à personne », en principe étant entre parenthèses. Le spectacle est donc un diptyque. Deux dispositifs sont proposés au public. La plupart du temps, c'est le premier dispositif qui est acheté par les institutions, par les théâtres. Donc, il y a une déambulation dans la ville, dans l'espace urbain, au casque. Dans les casques sont diffusés un montage qui correspond exactement à la déambulation proposée. J'y reviendrai. La deuxième partie du spectacle est une mise en scène sur la scène de comment cette déambulation a été faite et de ce que la déambulation dit de l'espace, le lieu, et surtout la définition de l'espace et du lieu dans son rapport aux personnes. Ce souhait étant appuyé par le texte « Espèce d'espace » de Georges Perec, voilà, avec lequel Lola Neymarck a constitué un tissage entre le matériel de la scène, le texte de Perec et les entretiens qu'elle a menés avec Mélanie Pécla, avec les habitants des villes et qui constituent les rushs des déambulations. Donc, à chaque ville, à chaque étape de tournée, sa déambulation, le spectacle, lui, est le même, auquel vient s'ajouter les nouveaux rushs. Alors, ce qui est intéressant pour la déambulation, notamment, c'est que donc, c'est l'espace urbain qui devient la scénographie du spectacle, le texte étant ce montage des voix enregistrées par les deux créatrices. Donc les entretiens sont assez longs. Elles mènent avec trois ou quatre spectateurs quand l'un des spectateurs est un enfant. Deux entretiens qui en tout peuvent aller jusqu'à 3 ou 4 heures de rush. Ces entretiens sont construits à partir de questions telles que quel est votre rapport à la ville, quel est votre trajet quotidien, quel est votre endroit préféré sur ce trajet, est-ce que vous pouvez décrire précisément ce que vous faites. Et à l'intérieur de ces rushs, elles constituent une balade, une déambulation sonore de 45 minutes où nous, en tant qu'audio-spectateurs, on découvre le récit fait par les témoignants. On a ainsi en fait un spectacle qui résulte du texte recueilli et ce rapport à la ville qui devient le spectacle proposé par les créatrices. J'espère que la description de ce dispositif est très claire. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que donc le dispositif devient l'action dramaturgique. Et surtout, on retrouve dans cette déambulation quelque chose de propre à la radio qui est un présent multiple. Donc, le présent de la radio, c'est des choses qui ont été décrites par des créatrices documentaires telles que... Kay Mortley ou Simone Dweck, c'est une accumulation du matériau enregistré, de ce que le montage fait dire au matériau enregistré et aussi de l'audition et du temps présent que l'auditeur vient apporter. L'auditeur qui est lui-même en train de faire autre chose, d'éplucher ses carottes, par exemple, ou de regarder les choses par la fenêtre. Donc, cette écriture qui vient se révéler dans le montage, elle est très vive dans cette déambulation, puisque l'auditeur, il est directement encadré par ce que le texte vient lui dire, par ce personnage qui est le témoignant. Le témoignant est bien dans un autre présent, mais il est dans le présent géographique. puisqu'il est en train de dire, quand je vais à l'école, cette fresque, je la vois tous les jours, et l'auditeur voit cette même fresque en se promenant. Cette proximité des récits permise par le sonore, on la retrouve aussi dans le spectacle Radio On de Guillaume Bariou, qui de la même manière a été créé bien avant les questions de confinement, puisque ces deux spectacles datent, puisque Radio On date de 2019. Alors, c'est un spectacle à un dispositif très particulier. L'intermédialité n'est pas seulement prise en charge par la radio, mais je m'intéresserai précisément à la question de la radio. Dans ce dispositif, les spectateurs sont installés dans des voitures. C'est un spectacle pour 26 voitures. Et les voitures se trouvent face à l'extérieur, donc à un terrain vague sur lequel est installé un écran qui est divisé et en dessous duquel il y a aussi une scène. Et l'écran ne sert pas uniquement à projeter de la vidéo sur le dispositif du Ciné Drive ou du parc ciné-parc, il sert aussi à projeter des lumières et le spectacle se déroule aussi en dessous de l'écran. Donc il y a comme sur une scène de théâtre cette discussion entre les matériaux du jeu des interprètes et des images et des lumières projetées, mais cette fois les spectateurs sont en extérieur, installés non pas au théâtre mais dans des voitures. Le son dans ce dispositif, lui, est retransmis par une antenne FM dans les autoradios des spectateurs qui viennent avec leur voiture. Alors, la déambulation de Lola Neymark, Les Rues n'appartiennent en principe à personne, et Radio On ont été des spectacles qui ont prolongé leur tournée qui aurait pu s'arrêter en 2019-2020, qui ont prolongé leur tournée, qui ont été reprogrammés en raison de leur dispositif comme ça, qui mettait en confiance les spectateurs, puisque la déambulation par définition a lieu dehors. Et Radio On, on pourrait penser que c'est un spectacle individuel, puisque chaque spectateur est confiné, entre guillemets, dans sa voiture. Alors, ce qui est intéressant avec Radio On, c'est qu'en réalité, les spectateurs qui n'ont pas de voiture sont installés dans des voitures d'inconnus. Bon, voilà, c'est assez symptomatique des mesures prises au sein des théâtres qui sont en fait souvent pour cacher un peu la misère et pas si utiles que ça. Mais voilà, en tout cas, pour les histoires de production de ces spectacles, ils ont aspect de séduction que la radio apporte en plus-value. Le texte de la pièce Radio On, c'est un texte d'un dramaturge qui s'appelle Falk Richter, à 2h du matin, et qui s'entrelace avec le dispositif qui porte la fiction. Alors, dans les pièces radiophoniques, dans les pièces mettant en scène de la radio au théâtre, quand on voit un plateau de radio ou quand on se sert de la radio, c'est souvent pour son caractère journalistique, rédactionnel. Cependant, il existe, comme cette proposition, des pièces comme ça qui ne peuvent pas se défaire sur la fiction et la forme, puisque de mettre en scène ces personnes dans des voitures, les spectateurs dans les voitures sont inclus dans la mise en scène et sont en discussion, enfin, ce sont des éléments de ce texte qui est un récit fragmentaire comme ça de plusieurs recherches de sens, de personnages qui se trouvent en difficulté à trouver du sens à leur existence et qui sont dans des déplacements qui passent d'une ville à une autre, d'un travail à une autre, d'un horaire à un autre et dont leurs pensées ont du mal à se fixer et qui sont dépendants de leurs objets aussi. Et donc, les spectateurs se retrouvent dans la même position que les personnages, eux, dans leur voiture. Ce qu'il y a d'important aussi dans ce spectacle, qui pour moi me semble intéressant sur la question des dispositifs et de tout ce qui a lieu pendant le confinement, c'est cette question autour de l'immersion ou de l'interactivité. Alors, ce spectacle, il est plus immersif qu'interactif, puisque la seule action du spectateur est de redémarrer son moteur toutes les 20 minutes quand l'autoradio s'éteint. Puisque l'autoradio s'éteint hein, dans nos voitures. Voilà, bon. Et donc, il est demandé au spectateur de redémarrer pour pouvoir entendre, puisque tout le son de la musique et des micros est mixé et envoyé dans l'autoradio. C'est d'ailleurs pas la première fois que Guillaume Bariou soigne comme ça ses mises en scène avec une introduction sonore proche du cinéma. Donc, le spectateur, il devient collaborateur de la prise en charge du dispositif technique. Et ça, c'est important puisque la radio, c'est aussi un média qui est très facile à bidouiller. En réalité, voilà, moi, avec un dictaphone ou un enregistreur, on peut faire des podcasts, par exemple, ou faire des émissions enregistrées. C'est notamment une de mes mission auprès des spectateurs ou des apprenants dans les ateliers. Cette vision du spectateur qui devient pas seulement co-acteur dans le spectacle, mais qui est aussi placé en sa position de producteur, où il dispose d'un des outils qui permet au spectacle d'exister. C'est pour moi un endroit important, hein, c'est cette vision du spectateur-producteur. C'était aussi une utopie à la naissance de la radio au début du XXe siècle, puisque les premières antennes radio n'étaient pas immédiatement associées à des chaînes de radio, et ne sachant pas quoi diffuser, les auditeurs s'en servaient entre eux au début. Je voudrais quand même vous parler d'une expérience d'atelier qui a donné lieu à un spectacle. Ça s'appelle « Nous, les vivantes ». Et donc, c'est Alexandre Plan qui en a assuré la mise en scène. Mais c'est une coproduction avec plusieurs associations de radio, des associations culturelles, des ateliers de médiation culturelle, la Maison des femmes de Montreuil et des collèges. Et en fait... Le dispositif était une émission de radio sur scène avec une espèce de restitution d'atelier dans lesquels était inséré un enregistrement de podcast en direct. Chaque atelier ayant donné lieu à un montage de texte par les différents publics, le collège, une femme de la Maison des femmes venant témoigner et un usager d'un centre socio-culturel venant à son tour témoigner. Le tout étant mis en relation par un orchestre qui venait assurer les transitions comme on aurait pu entendre un habillage radiophonique. On a entendu quelque chose de très intéressant sur le dispositif radiophonique et notamment les notions d'habitude et d'automatisme. En fait, ce qu'on examine, on pense qu'on a besoin pour faire de la création artistique, donc de sortir des habitudes et des automatismes, et à la fois... Ce spectacle-là particulièrement, dans son aspect de restitution de travaux d'apprenants, il a pour matériau de se servir des habitudes et des automatismes des apprenants qui ont été rencontrés par les différents publics. En fait, comme on est tous consommateurs, et notamment tous les publics qui ne sont pas forcément des publics de théâtre, sont consommateurs de médias, de chaînes d'information, de radio, mais surtout de réseaux sociaux, ils ont comme ça des habitudes de discours qui peuvent être exploitées. Et ces automatismes-là, en atelier, il est intéressant de les révéler pour s'en servir et pour ensuite s'en détacher. Mais c'est souvent sur ces automatismes-là qu'on fait découvrir à des publics qui n'ont pas envie d'aller au théâtre ou qui n'ont pas envie de monter sur scène, qu'ils ont la compétence pour prendre la parole. Donc voilà, se méfier en fait d'avoir distingué trop le théâtre d'autres formats qui sont populaires, parce que la dramaturgie, par exemple, d'une émission de radio peut mettre en confiance les apprenants en atelier et même les spectateurs au théâtre. Ce parcours a été plus long que prévu, mais à la fois un peu rapide, j'espère qu'il aura été utile comme ça pour replacer un peu plus en arrière des repères. Je voulais aussi conclure sur le fait qu'on peut être... il y a eu des méfiances, toujours pour parler de l'histoire de la radio, il y a eu des méfiances à sa création il y a 100 ans, il y a un peu plus de 100 ans, mais quand c'est devenu comme ça un média populaire sur ce que ça allait faire à notre perception, ce que ça allait aliéner, ce que ça allait prouver, ce que ça allait priver aussi dans la présence. Benjamin en est le penseur le plus vif à ce sujet. En fait, moi, il me vient à l'esprit avec tous les exemples de ces deux jours et par ce rapprochement du média radiophonique avec le théâtre, que le théâtre vient aérer les médias plus que les médias n'étoufferaient le théâtre. Et je pense qu'on peut essayer de s'en convaincre. En tout cas, ces journées, y participent.
Merci beaucoup, Élodie.
Je vous en prie, merci.